En fait, moi, ce que je vous propose, du coup, dans ces 40 minutes, ça va être de dialoguer devant vous avec Yaël, en fait, de lui poser les questions au fur et à mesure qu'elle me réponde. Et voilà, j'ai une batterie de questions pour elle. Je ne pense pas qu'on pourra toutes les poser, mais on va essayer de rester, voilà, centré autour de cette thématique de la formation, enfin, de la vie de couple et de la formation des couples, pour ne pas partir sur toutes les thématiques. Mais avant ça, je voulais me permettre quand même de dire un mot, un peu de resituer le travail qu'a fait Yaël, on va dire, dans la sociologie rurale, dans l'histoire de la sociologie rurale. Parce que là, bon, je trouve que tu fais une présentation assez humble du travail d'enquête, en fait, qui a été fourni. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une enquête qui est inédite, en fait, par son ampleur. Je suis allé voir un petit peu dans les travaux qui évoquent, qui discutent en tout cas de la condition des femmes en milieu rural. Jamais on avait eu, en fait, une enquête qui va se baser sur, voilà, 100, 130 entretiens individuels ou collectifs, 130, 127 entretiens collectifs, j'ai noté ça, 66 entretiens individuels, 193 jeunes femmes de rencontrées sur 4 territoires différents. Donc évidemment, l'ampleur du terrain soulève aussi beaucoup de choses. Le livre reprend énormément de thématiques et pour les raisons éditoriales, tu es amené à passer certains sujets assez rapidement. Mais en tout cas, on voit, en fait, je trouve que pour les générations notamment à venir de chercheurs et de chercheuses, tu défriches, en fait, un objet qui est resté un peu abordé par la bande jusqu'alors. Et ça, c'est, à mon avis, c'est une des grandes qualités de l'ouvrage, sur lesquelles je vais revenir un petit peu après. Pour revenir un petit peu plus loin, quand même, enfin, dans l'histoire de la sociologie, ton ouvrage me fait beaucoup penser au travail qui a été entrepris dans les années 70 par celles qu'on a appelées les dames de Millau. Les anthropologues travaillaient sous l'égide de Claude Lévi-Strauss, donc Yvonne Verdier, Françoise Zonabend, Tina Jolas et Marie-Claude Pingot, qui travaillaient sous l'égide de Claude Lévi-Strauss sur un petit village du nord de la Côte d'Or, de la région du Châtillonnais, qui s'appelait Millau. Elles étaient amenées là-bas, en fait, parce qu'à l'époque, il y avait une division du travail assez stricte, en fait, où les anthropologues étaient des hommes, mais qui étaient des anthropologues de cabinet, c'est-à-dire qui restaient dans leur bureau, et les gens qui faisaient du terrain, c'était des femmes. Voilà, même Lévi-Strauss, hein, lui-même, d'ailleurs, sa femme a beaucoup contribué à faire son terrain au Brésil. Et en fait, où on les envoyait un petit peu travailler sur la structure sociale de la parenté, et sans qu'on leur ait demandé, finalement, elles en viennent à écrire un livre sur les femmes. Leur ouvrage pionnier en 79, Façon de dire, façon de faire, La laveuse, la couturière et la cuisinière, c'est en fait la manière dont les femmes produisent aussi l'histoire orale, la mémoire collective, et quelle est leur fonction sociale, et comment, en fait, il y a différentes fonctions féminines au sein d'un même village, avec une perspective anthropologique qui est assez datée, hein, où on allait enquêter les villages français dans les années 70 comme une civilisation qui était appelée à disparaître. Donc, on va dire que certaines formes du récit qui sont données dans ce livre-là peuvent un peu heurter aujourd'hui. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a une vraie filiation, et qui renvoie, à mon avis, au fait que, enfin, quand même, dans les deux cas, c'est des enquêtrices femmes qui donnent le micro, qui donnent l'enregistreur et la parole à d'autres femmes. Et elles se retrouvent, en fait, elles-mêmes, elles arrivent, en fait, à faire émerger une parole qui parfois ne se donne même pas à entendre parmi les gens du coin, parmi les femmes du coin. Et ça, je pense que c'est un vrai. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui me marque aussi dans ton livre, quand je compare notamment à ma propre enquête que moi, du coup, j'ai menée en tant qu'homme, parfois en faisant des entretiens avec des femmes et des hommes, mais, enfin, en tout cas, dans une proximité, on va dire, de trajectoire. Et moi aussi, j'étais sous certains aspects un gars du coin, je n'arrivais pas, on va dire, à accéder à certains thèmes et certains sujets qui sont abordés là. Je vais y revenir. Mais ça me fait beaucoup penser à cette posture qu'avaient réussi à avoir les anthropologues, qu'on appelait les dames de Paris. Et je voulais, une de mes premières questions, mais je vais finir avant mon petit propos, mais une de mes premières questions, ça sera là-dessus, c'est dans quelle mesure, toi, est-ce que tu n'as pas été aussi une dame de Paris vis-à-vis de tes enquêtés? C'est-à-dire, dans quelle mesure tu as pu, en fait, avoir ce rôle de tiers extérieur à ce que d'autres appelaient auparavant la communauté villageoise, mais en tout cas, cette interconnaissance qui fait du contrôle social. Et dans quelle mesure, toi aussi, tu as pu avoir Ce rôle qu'on a attribué notamment à Jeanne Favret-Saada quand elle a travaillé dans la sorcellerie dans le Bocage, où le fait qu'une dame de Paris, là encore, vienne s'intéresser aux paysans du Bocage, ça avait été interprété comme la présence d'une sorcière blanche, en fait, d'une sorcière qui faisait le bien, qui allait résoudre les conflits, et dont on pouvait parler aussi pour, d'une certaine manière, résoudre les conflits qu'on ne peut pas se dire entre proches, entre filles de la même génération, entre gens du coin. Et voilà, et juste pour resituer aussi un petit peu, je pense, l'émergence, on va dire, que je trouve intéressante à analyser, l'émergence de la thématique de la présence des femmes en milieu rural, parce que même s'il y a eu ce livre, qui est un livre qui a eu un grand écho médiatique, hein, le livre que je vous citais, là, des anthropologues de Millau en 79, il y a même eu un scandale qui a fait les titres de Paris Match à l'époque, parce qu'après, il y a eu un procès qui a suivi ce livre. Enfin voilà, c'était un important ouvrage. Néanmoins, ça n'a pas installé, on va dire, l'étude des femmes rurales comme un objet légitime. Bourdieu le disait déjà, la sociologie rurale a toujours été au bas de la sous-hiérarchie disciplinaire en sociologie, notamment parce qu'en fait, elle s'intéresse à des classes sociales qui elles-mêmes ne sont peu légitimes, peu visibles, donc, auxquelles on accorde peu de crédit politique, etc. Donc, il y avait peu de visibilité. Et on va dire que l'objet est revenu un petit peu par le truchement de la sociologie des classes populaires, et notamment de la sociologie de la classe ouvrière. Bon, voilà un ouvrage que tu cites pas dans le bouquin, mais qui est un peu moins, enfin même, je ne sais pas si tu parles du livre précédent des anthropologues de Millau, mais ça m'a fait penser au livre de Florence Weber, Le travail à côté, qui lui étudie une ruralité, hein, de Montbard et ses alentours dans l'Yonne, mais qui ne parle pas de l'aspect genré, en fait, des rapports sociaux, même s'il est fait par une femme, hein, ce livre-là, et qui en fait s'inscrit dans une sociologie légitime qui est celle de la classe ouvrière, qui est celle de l'après-classe ouvrière. Et c'est un peu la même chose pour ce qui se passe avec le livre de Nicolas Raynaï, hein, qui est celui donc un peu qui quand même est le, je pense pour notre génération de chercheurs, est le livre pionnier sur lequel on s'appuie le plus, quoi. Les gars du coin, pourquoi aussi c'est un livre qui est écrit du point de vue des hommes et des sociabilités masculines, c'est aussi parce que c'est un ouvrage qui pour intéresser, on va dire, autour des espaces ruraux. Prenait aussi, enfin, prenait dans la sociologie des ouvriers et de l'industrie et enfin, voilà, des relations de travail. Donc forcément que ça masculinisait l'objet. Et néanmoins, l'ouvrage est assez pionnier dans le fait qu'il y a deux chapitres consacrés aux relations conjugales, qui sont les chapitres de la fin, donc là où on en a en généralité. Enfin voilà, mais tout ça pour dire que jusqu'alors, il n'y avait pas eu d'enquête de cette ampleur sur les jeunes femmes en milieu rural et qu'il faut espérer que ça va voilà, que ça va se diffuser, que c'est un objet qui va davantage être légitime, de la même manière que les études de genre sont légitimes. Moi, ce qui m'a marqué en regardant un petit peu les prénoms des gens, alors je ne sais pas si on met tous nos vrais prénoms sur le chat, enfin sur le Zoom là, mais généralement, quand on fait de la sociologie rurale, on fait toujours la remarque qu'on est une très grande majorité d'hommes dans les séminaires. C'est une sous-discipline plutôt masculine. Et on se dit, ben voilà, enfin, il y aurait une interprétation qui voudrait que les femmes s'intéressent moins à la sociologie rurale. Et en fait, c'est peut-être la manière dont était faite la sociologie rurale par des hommes auparavant qui intéressait peu les chercheuses. Et à mesure qu'on va commencer aussi à parler d'autres sujets, à moins être centré sur la vie des hommes, peut-être que les études rurales vont se féminiser elles aussi. Et puis il y avait aussi toutes ces histoires de mandarinat masculin, comme je vous en avais parlé autour de Lévi-Strauss et de ses doctorantes anthropologues, qui faisaient que souvent, en fait, le terrain était là encore, les matériaux étaient recueillis par des femmes, mais peu analysés par les femmes et peu publiés par les femmes. Du coup, j'en viens à mes questions. Alors, il y a celle déjà que tu peux retenir pour après, de ta place, toi, la dame de Paris, voilà. Qui est un peu une question attendue, hein. Bon. Mais je voudrais d'abord te poser une question un peu plus, on va dire, pas théorique, mais ce qui revient beaucoup dans ton livre, c'est les questions d'intégration sociale et de production des normes. Enfin, pas de production des normes, mais en tout cas de réception des normes légitimes, de réception de ce que c'est que la norme d'être une fille comme si, dans le modèle, une fille comme il faut. et comment tout ça polarise un petit peu les trajectoires de tes enquêtés. Et dans ça, tu parles beaucoup du contrôle social, de l'affaire des réputations. Donc ça, c'est un thème qui est classique en sociologie rurale, hein. Tu dis aussi bah voilà, comment les normes juvéniles du coup se construisent, là je te cite, c'est beau, se construisent autour des garçons. Du coup, c'est le modèle masculin, et puis après, finalement, on aurait les normes qui concernent les femmes, elles se construiraient par rapport déjà à cette légitimité masculine-là. Mais moi, ce qui m'a marqué dans ton livre, c'est qu'on percevait aussi beaucoup d'anomie, en fait, chez pas mal de tes enquêtés, quasiment tout le temps chez les enquêtés qui sont dans des situations les plus précaires, qui viennent des familles elles-mêmes les plus précaires, les maisons du bout de village, là, dont tu parles beaucoup. Celles qui sont accompagnées par les dispositifs garantie jeunes, de retour à l'emploi, qui sont en fait davantage intégrées, enfin, qui sont en relation davantage avec des institutions de l'État social de la main gauche de l'État qu'avec les autres jeunes femmes ou hommes de leur génération sociale et locale. Enfin, qu'est-ce que c'est pour. Enfin, comment penser ça en fait en tant que tel, sans dire bah, finalement pour eux le contrôle social c'est du stigmate. Mais qu'est-ce qui amène les jeunes que tu rencontres à ne rien faire? C'est une expression qui revient beaucoup en fait dans le bouquin. Ces jeunes qui disent avoir passé des mois, même parfois des années, à n'avoir rien fait, alors même qu'ils sont déjà dans un âge biologique en tout cas relativement avancé. Où ce qui, enfin, moi j'expliquais dans mon. En tout cas, dans mes travaux, ce que je retrouvais plutôt chez les jeunes, c'est que ce qui caractérisait la vie rurale, c'était une forte intensité des relations sociales et le fait que, bah, ils étaient pris en fait, avec les commérages, ce contrôle social que tu décris, je trouve mieux que moi, parce que tu le vois vraiment, tu le vois de point de vue de celles qui le ressentent le plus, que les jeunes femmes le ressentent plus que les garçons. Mais néanmoins, ils avaient pas, enfin, je retrouvais peu de ces profils en fait, de jeunes qui ne faisaient rien. Et du coup, selon toi, enfin, à quoi ça tient cette anomie relative dans l'esprit qui pourtant est très énorme, assez coercitive, où il y a aussi une pesanteur des positions sociales qui font que on est inscrit dans une position à long terme. Donc, en fait, les normes qui nous définissent, qui encadrent les possibles, les impossibles, on les connaît, on les incorpore assez tôt. Voilà. Ben après, j'ai tout un tas d'autres questions, mais d'abord peut-être que tu puisses répondre à celle-ci, et puis après, on verra.
Merci. Merci Benoît. Alors, du coup, je n'ai pas le droit de répondre à celle de la Dame de Paris pour l'instant, c'est ça?
Ouais, si, mais réponds-y si tu veux, c'est pas parce que j'en ai d'autres qui vont
Non,
avec.
non, mais je vais garder le fait d'être une Dame de Paris pour un peu plus tard. Sur la question des jeunes qui font rien, en fait, donc oui, effectivement, il y a pas mal de filles. Que j'ai rencontrés qui me disent ne rien faire. Alors moi, je trouve que, et ça, c'est pas exclusif du tout à cette enquête, hein, dans plein d'enquêtes sur lesquelles j'ai pu travailler, il y a quand même tout un certain nombre de jeunes qui disent qu'ils font rien dans la vie. Et moi, je trouve ça toujours le moment presque le plus intéressant quand les gens disent qu'ils font rien, parce que c'est là où, en tant que sociologue, on peut aller creuser ce qu'ils font quand ils font rien. Et notamment chez les filles là, mais dans d'autres espaces ou dans d'autres problématiques. On va retrouver en fait qu'est-ce qui est légitime à raconter à une sociologue ou à un sociologue, qu'est-ce qui fait partie en fait du discours de ce qu'on attendrait comme discours ou comme pratique de la part des jeunes. Donc je vais à l'école, je suis inscrite dans tel stage, je fais telle formation, je fais tel truc, j'ai des enfants qui justifient ma journée, et qu'est-ce que je fais quand je fais rien. Et notamment, pour moi, il y a toute une construction dépréciative de l'occupation féminine dans le je ne fais rien, parce qu'en fait, quand elles déroulent leur journée, elles font vachement plus que rien. Il n'y a personne qui fait exclusivement rien. C'est comme j'écoute pas de musique et je fais rien sur Internet. Non, sur Internet, tu fais plein de trucs. Et quand tu vas sur YouTube, tu écoutes aussi de la musique et tu suis des tutos. Donc voilà. Et derrière le je fais rien, il va y avoir. Alors, je vais prendre un exemple tout bête et tout petit, hein, mais de cet entretien où une fille que je rencontre, que je vois plusieurs fois, je vais chez elle. Et plusieurs fois, elle me dit qu'elle fait rien. Elle fait rien au-delà de son taf et de sa fille. Non, sinon, dans sa vie, elle fait rien. Et donc, dans son rien, il y a de construire, enfin, de fabriquer des petits bijoux, et notamment des boucles d'oreilles qu'elle va m'offrir à la fin, en plastique, là, en plastique coloré, en mode kawaii, donc mignon, japonais, tout ça. Mais ça fait partie de ce qu'elle fait quand elle ne fait rien. Et en fait, derrière cette occupation qui va lui permettre d'avoir des activités, d'apprendre des choses, enfin voilà, d'avoir des compétences à la fois techniques d'utilisatrice d'Internet. Elle va avoir des tutos spécifiques. Elle va aussi avoir une expertise sur les sites Internet sur lesquels il va falloir acheter les plastiques, acheter les métaux pour pouvoir faire la boucle d'oreille et puis ensuite le fer à souder et tout ça. Elle ne va jamais dire qu'elle fait de la soudure, elle ne va jamais dire tout ça. Derrière ça, elle ne fait rien parce que ce n'est pas de son point de vue des compétences qui sont légitimes et transférables dans d'autres espaces sociaux, notamment le travail, mais aussi la famille, et encore moins à une sociologue qui vient de Paris. Mais pour autant, comme je suis une fille, j'ai le droit d'avoir des bijoux. Et donc, d'un seul coup, on peut parler bijoux, mais les bijoux, c'est une passion. Et la passion, c'est rien. Donc, il peut, derrière le rien, y avoir l'activité passion, qu'on va retrouver aussi derrière je dessine ou j'écris des romans ou des choses comme ça. Il va y avoir aussi, derrière le rien, je fais rien parce que je fais ce qu'on me demande, en fait. Je fais rien parce que je m'occupe de mon petit frère et de ma petite sœur. Je fais rien parce que je relaye ma mère qui est au 3-8 et donc il faut gérer tout le travail domestique. Et le travail domestique, ce n'est pas du tout considéré et construit comme un travail. Hein. Clairement, c'est du rien. Ça fait partie du rien. Et en fait, on va voir combien le travail a une définition, mais à peu près comme la mobilité, comme beaucoup de choses, hein, une définition hyper circonscrite et réduite derrière ce qui va faire partie du travail et qu'est-ce qui va faire partie du rien et qui sont en fait... que des formes d'implication permanente, mais qui ne sont pas considérées parce que pas monétairement, pas voilà, qui ne font pas, qui ne donnent pas sens à un apport économique, par exemple. Et c'est quelque chose qu'on va voir renforcé, notamment par le travail domestique, hein, dans les fêtes de village, quand les filles ne font rien, mais que ça fait 3 jours qu'elles aident à la préparation des repas. Quand les garçons, eux, ont passé l'après-midi à monter le barnum et sont félicités par le maire au moment de la fête de village, les garçons sont largement félicités parce que sans Max, Jordan et Tom, il n'y aurait pas eu de fête parce qu'il n'y aurait pas eu de barnum. Et pour les filles et pour les femmes plus généralement, qui ont passé 3 jours à préparer à bouffer et à faire des chemins de table, et bien là, il n'y a rien. Et en fait, ben non, c'est normal en fait. Et en fait, derrière le « c'est normal », il y a le « rien ». Et dans le « c'est normal » et dans le « rien », il y a « je donne un coup de main ». Et la disqualification de « je donne un coup de main », il y a le « rien ». Donc voilà, et puis dans la construction aussi du ne rien faire, il y a quand même toute une fraction des jeunes qui passent beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo, qui fait partie du rien, parce que ça fait partie du rien du point de vue des adultes en fait. Passer du temps avec ses potes et passer du temps encore pire avec des potes en ligne, c'est-à-dire que les adultes disent « mais c'est des gens que tu connais même pas », alors qu'en fait c'est des gens qui se connaissent extrêmement bien parce qu'ils passent des jours et des nuits à discuter ensemble et à discuter de manière de sujets très très personnels, d'histoires vraiment très intimes, se connaissent très très bien, mais ce n'est pas des vrais amis, puisqu'ils ne se connaissent pas physiquement, sans qu'ils ne se sont pas forcément rencontrés, et donc ça va faire partie du rien. C'est comme passer du temps avec ses potes, ça ne fait rien. Et donc cette construction du rien, en fait, elle va être sur les positions et les postures de légitimité, illégitimité, qu'est-ce que ça t'apporte à un moment de la vie où l'insertion professionnelle et où le parcours scolaire est la réussite scolaire sont extrêmement fortes en fait en termes d'injonction des adultes sur la construction du récit.
Alors, j'en profite pour reprendre la parole. Merci. Enfin, je trouve que c'est une super réponse parce que en fait c'est ça montre un petit peu l'enjeu qu'il y a, je trouve, des enquêtes ethnographiques par rapport aux enquêtes qualitatives, hein, sans vouloir peser le pour et le contre, le mieux ou le moins bon de chaque méthode, mais on voit qu'en fait arriver à nommer certaines pratiques sociales, à montrer comment en fait tout n'est que l'effet de reconnaissance inégale de certaines pratiques en fonction de qui les porte et qui les rend, peut les rendre du coup plus ou moins légitimes dans un espace social donné. On voit qu'il y a un effet, il y a un enjeu majeur en fait pour la sociologie à travailler là-dessus. Et de la même manière qu'on a beaucoup parlé en sociologie rurale, du renversement symbolique que peut exercer la sociologie quand elle va s'intéresser davantage aux classes populaires, donc à la majorité de la population, plutôt qu'à ceux et celles qui sont généralement les dépositaires de l'histoire locale, c'est-à-dire les notables, les filles bien, c'est la fille du notaire qui est citée à un moment dans le livre, c'est pas la fille des HLM, donc soit on parle en mal, soit, en fait, comme tu le dis, parfois, c'est HLO, il n'y a même pas de discours dessus. C'est carrément même en dehors de l'interconnaissance, alors même qu'elles sont là localement. Après, j'avais une autre question qui, avant d'en venir du coup sur la question peut-être plus précisément des couples, qui portent sur ta méthode. Donc, il y a quatre territoires, en fait, qui sont traités. Dans la manière dont tu as écrit le livre, sauf dans le chapitre sur le temps libre, tu ne mentionnes pas, généralement, en tout cas, tu ne mentionnes pas où se situe la jeune femme dont tu parles. Tu ne dis pas sur quel territoire c'est. J'aurais voulu un peu que tu t'expliques sur ce choix-là, ou je ne sais pas si c'est un choix délibéré ou si c'est juste quelque chose. Voilà, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de billes dans d'autres formats que tu as écrit sur le sujet. Mais c'est pour t'amener un petit peu, en fait, à mes questions suivantes sur la manière dont finalement la comparaison territoriale t'a aidé à détricoter ton objet. Parce qu'il me semble, notamment quand on parle là, tiens, pour la question des mises en couple, que les effets de morphologie sociale locale, c'est-à-dire quels groupes sociaux sont en présence, notamment sur le marché matrimonial, qui est un terme qui ne revient pas dans le bouquin, mais je pense qu'il a eu une importance, c'est quels sont, quand tu en as parlé dans ta communication, les hommes disponibles qui restent. Je pense que ce n'est pas les mêmes qui restent à 25 ans selon les territoires, selon qu'il y a plus ou moins d'emplois qualifiés, selon qu'il y a plus ou moins de renouvellement de population. De la même manière, ça ne va pas être les mêmes attendus, toujours sur la question conjugale, selon la morphologie sociale locale, puisqu'il n'y aura pas les mêmes styles de féminité qui seront valorisés dans un territoire où la plupart des femmes sont ouvrières ou qui travaillent dans l'assistance, dans l'aide à domicile ou dans des petits emplois précaires. Et dans d'autres espaces ruraux, on sait qu'il y a une forte présence, notamment dans l'ouest de la France, de femmes diplômées qui vivent de leur diplôme alors même qu'elles travaillent en milieu rural. Et je me demandais en fait comment tout ça, j'imagine que tu n'as pas trop la possibilité de mettre tout ça dans le bouquin, mais je voudrais que tu reviennes un petit peu là-dessus, puisque moi ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, ce protocole d'enquête, à mon avis, permettrait d'écrire encore beaucoup de choses. Là, tu as écrit vraiment le monde vécu du point de vue de tes enquêtés, mais toute cette question des rapports sociaux et notamment de ce que les différentes classes sociales en présence font à la construction du genre, font à la manière de se mettre en couple en tant que femme, font aux aspirations qu'on peut avoir. T'en parles plutôt sous l'angle professionnel. Donc le marché, on entend que le marché du travail n'offre pas les mêmes perspectives dans les différents territoires, mais peut-être moins sur la construction de soi en tant que femme du coin, quoi. Voilà, si tu pouvais un petit peu revenir là-dessus. Et aussi, un autre aspect qui est là aussi une question de lieu. Il me semble que tu n'as pas beaucoup parlé de la spécificité d'être dans des... de ce qui se joue entre les villages et les bourgs. C'est-à-dire que le bourg, tu vois que du point de vue de certaines des jeunes femmes que tu enquêtes, est vu comme le lieu qui concentre, et ça se vérifie statistiquement, hein, les populations les plus précaires, plus liées aux sociaux, là où on concentrerait la délinquance, où parfois on dit ils se prennent pour des gars de cité alors que c'est la campagne et il y a les flics tout le temps. Et je me demandais en fait qu'est-ce qui devait aussi dans ces différents, en dehors du fait d'être dans différents territoires, de différents départements, aux quatre coins de la France. Qu'est-ce qui devait au fait que ton enquête était plus ou moins située dans les petits villages ou dans les bourgs? Peut-être que c'est lié aussi aux entrées que tu avais. Donc voilà, si tu pouvais revenir là-dessus, ça m'intéresserait.
Alors sur les quatre territoires et pourquoi on ne sait pas où se situent les filles, en fait, c'est choisi. Et vraiment, il y avait un objectif d'aller au-delà de l'anonymisation, parce que juste changer les prénoms, ça ne suffisait pas. Et que pour protéger leurs propos, il y avait aussi un enjeu de confidentialité des données. Et que parfois, dans les parcours, ils sont assez singuliers pour que l'anonymisation ne suffise pas, ou en tout cas, moi, ne me garantisse pas, me donne pas assez de garantie, moi, pour que quelqu'un d'autre que moi et que la fille concernée puisse se reconnaître, mais qu'il y ait d'autres gens qui puissent les reconnaître. Et donc, pour assurer davantage de confidentialité, j'ai effacé. Quand je parlais des filles, j'effaçais les territoires. Et quand je parlais des territoires, je ne parlais pas des filles. Globalement, c'est un peu le deal que je me suis fait. en me disant que peut-être que, et c'est ce qui a marché quand j'ai fait des restitutions, mais il y a des filles qui m'ont dit que c'est elles qui avaient dit ça, et en fait, non, c'est pas elles qui ont dit ça, c'est d'autres filles. Mais voilà, et en choisissant des exemples à la fois singuliers, mais retrouvés ou assez communs aux quatre territoires, ça me permettait aussi de me dire que la parole pouvait être reconnue, ou en tout cas, elles pouvaient se sentir solidaires les unes des autres dans les propos des unes des autres, sans pour autant avoir une identité ou une identification à un seul lieu, en disant « Ah, c'est les filles de là-bas, elles sont comme ça ». Donc, voilà. Il y avait un peu cette idée-là, mais surtout et avant tout, de respecter en fait, le deal qu'il y a eu au moment de la négociation des entretiens formels, quand je sortais le dictaphone, quand on se posait autour d'une table, quand j'ai enregistré tout ça, qui était confidentialité et anonymat, et pas uniquement « Je t'enregistre et je repars avec ça, et puis on ne se reverra plus ». Ça faisait partie du deal et on en reviendra quand on sera aux Dames de Paris. Mais voilà, il y avait vraiment ce truc de... c'est pas juste changer de prénom, en fait. L'objectif d'une enquête de sociologie, il faut aller au-delà du changement de prénom. Enfin, objectivement, on n'assure pas l'anonymisation et la confidentialité des propos si juste on change un prénom et qu'on n'efface pas et qu'on ne modifie pas certaines professions parentales. Parfois, quand c'est des parents qui ont des professions ou des parcours très spécifiques, quand c'est des jeunes qui ont des histoires de vie aussi très spécifiques, on peut se permettre de hop, décaler d'un petit cran et ça ne changera rien au récit. Mais par contre, ça protégera la personne dans ce qu'elle a dit. Donc voilà, c'est pareil, des fois c'est une fille qui raconte et il n'y a pas le prénom, parce que si c'est une fille et qu'il y a plusieurs fois le prénom, machin, on peut savoir qui c'est. Donc voilà, il y a des stratégies d'écriture aussi, dont j'ai essayé de protéger les filles qui ont participé à l'enquête, non pas parce qu'elles seraient en grande difficulté, mais plutôt parce qu'elles ont participé à une enquête sociologique et que l'objectif, c'est que si un jour dans leur vie, il y a une ou un autre sociologue qu'elle croise, elle ne soit pas dégoûtée d'avoir participé à une enquête, mais plutôt partante, soit pour participer, soit pour inciter d'autres gens à participer. Donc voilà, mais de ne pas faire politique de la terre brûlée, je passe et derrière moi, plus personne ne pourra enquêter parce que les gens seront dégoûtés d'avoir parlé à un ou une sociologue. Voilà, sur la question de la comparaison territoriale, alors je n'ai pas vraiment fait de comparaison territoriale dans cette enquête, je l'ai joué un peu plutôt sur de la complémentarité territoriale, pour rendre compte de mon objectif c'était, comme je n'avais pas, comme toi ou comme Nicolas Renaï, la légitimité de venir du milieu rural, pour pouvoir enquêter, pour pouvoir dire voilà, je viens de là et donc j'enquête de là d'où je viens et ainsi de suite, mon idée ça a été de dire ok, donc on a beau dire que les territoires ruraux sont hétérogènes, et ben on va aller voir quatre territoires hyper hétérogènes entre eux, à la fois que ça soit géographiquement typiquement la Bretagne, les Ardennes, la Chartreuse, les Deux-Sèvres, c'est pas du tout au même endroit. Alors après on m'a fait la remarque, et il n'y a personne dans le sud, oui bon ben dans une autre enquête j'irai en Ariège, voilà, mais donc il y a cette idée là et en fait c'est plutôt de la complémentarité, y compris dans les situations ou dans les statistiques. C'est-à-dire qu'en cœur de Chartreuse, par exemple, c'est une interco qui fait près de 17 000 habitants, alors que l'interco la plus grosse, qui est celle du Pays de Gâtine, elle fait 37 000 habitants. Et pour autant, en Chartreuse, on a beaucoup plus de classes moyennes, classes sup, qui sont présentes avec des capitaux diplômés dans l'interco et plus largement dans la Chartreuse, parce qu'il y a Grenoble pas très loin, parce que voilà, il y a Chambéry de l'autre côté et tout ça, et ça n'a pas d'équivalent du côté de Parthenay, qui a encore beaucoup 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 d'industries et beaucoup d'usines, notamment d'agroalimentaire, de fromage de chèvre, d'abattoirs et tout ça, qui vont faire qu'il y a des emplois aussi moins qualifiés. Donc il y a eu ces enjeux-là, et en même temps, qu'est-ce qui fait que quand on est de classe populaire dans un territoire avec 17 000 habitants, quand on est jeune, minoritaire, majoritaire, mais minoritaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent s'installer en Chartreuse avec des gros capitaux, ben où est-ce que se retrouvent et sur quel front et quelle face de la montagne se retrouvent les classes populaires, et qu'est-ce que ça fait finalement, et sur les quatre terrains, c'est ce qui m'est arrivé, d'aller me retrouver dans des cités. Alors là, on me dit, mais là, tu vas aller dans la cité. Alors, en même temps, oui, mais toi, tu viens de Paris, tu sais un peu plus, tu as moins peur des cités. Oui, mais oui, et donc, tu n'arrives pas sur les mêmes cités que celles qu'on peut avoir en Ile-de-France, par exemple. Et en même temps, avec les mêmes discours sur la cité. Donc voilà, il y avait cette idée-là. Il y avait aussi l'idée de travailler sur des espaces où il y a eu une désindustrialisation très forte, comme les Ardennes. Clairement, j'ai enquêté dans un endroit où il y avait, dans les années 80, 25 000 postes d'ouvriers et d'ouvrières, et aujourd'hui, il y a 23 postes. Donc, voilà, ça vous donne un peu une idée des effets de la désindustrialisation en France. Les gens sont restés, hein, ils ne sont pas partis, ils ne se sont pas enfuis. Mais du coup, on a beaucoup, beaucoup de gens qui sont sans emploi, avec des filles qui ont connu leurs parents, voire leurs grands-parents, sans jamais occuper un emploi, en recherche d'emploi en permanence, qui n'a pas d'équivalent finalement sur les autres territoires. Et du coup, l'idée, c'était aussi de voir, on a les Ardennes hyper désindustrialisées, on a les Deux-Sèvres avec encore des usines qui sont présentes. On a la Chartreuse qui est un peu mixte avec un emploi précaire pour les femmes locales de milieux populaires et en même temps une tension avec des emplois beaucoup plus qualifiés sur lesquels voilà, on ne va pas retrouver la même tension en Pays de Gâtine, donc dans les Deux-Sèvres. Et puis en pointe de Finistère, à Crozon, une polarisation entre quelques usines qui vont embaucher tout le monde. Alors typiquement, il va y avoir l'usine d'armement pour les grenades lacrymogènes, qui ne fait pas rien non plus en termes de discours quand on bosse là-bas, parce qu'on participe à l'armement, et on participe à de l'armement en 2018-2019, au moment des Gilets jaunes, au moment de la ZAD à Nantes, enfin voilà, enfin, ce n'est pas rien aussi que de travailler là-bas, et ou aux produits de poisson, et donc là, on travaille pour Picard, Carrefour, enfin voilà, toutes les chaînes sur lesquelles tout le monde a déjà acheté à manger du poisson. Donc voilà, et puis de l'autre côté, il y a tout le truc touristique, de la Chartreuse et de la pointe de Finistère, où moi j'avais envie beaucoup de creuser ce côté-là, où on n'a fait que de me vanter le charme du tourisme pour les jeunes, c'est un dynamisme génial et c'est comme ça qu'on va s'en sortir, et c'est comme ces jeunes vont travailler. Alors je reviens sur le travail, hein, parce que les jeunes vont pouvoir rencontrer des gens de l'extérieur, parce que comme ça fait venir des gens et tout ça fait venir des capitaux scolaires, humains, de la diversité, tout ce qu'on veut. Et pour autant, et ça c'est un truc sur lequel j'essaye d'insister un tout petit peu dans le bouquin, c'est qui sont les jeunes qui se retrouvent au contact des touristes? Eh bien, ça ne va pas forcément être les jeunes du coin, des classes populaires, mais davantage les jeunes qui ont les codes de l'urbanité, les codes sociaux, les codes scolaires des touristes, et donc soit des jeunes qui reviennent du coin, mais qui reviennent parce qu'ils sont partis, parce qu'ils avaient déjà, ils étaient déjà issus de la petite classe moyenne, classe sup. Soit des jeunes qui viennent de la ville et qui viennent pour un job d'été ou un job d'hiver et qui vont bouffer les emplois directement au contact et qui permettraient en fait de développer d'autres capitaux. Donc voilà, l'idée c'était vraiment plutôt de travailler en complémentarité et au-delà de ça, il faut être honnête et aller jusqu'au bout. Ça s'est fait aussi en lien avec les gens que je connaissais sur les territoires, puisque j'avais décidé de ne pas enquêter là où il y a ma famille, ce qui me grillait une partie de l'ouest de la France, mais d'aller enquêter quand même là où je pouvais rentrer avec éventuellement voilà, des gens avec qui j'avais déjà travaillé antérieurement et tout ça. Et puis, ça s'est déclenché notamment, parce que c'était un projet que j'avais depuis longtemps dans des cartons, hein, de travailler sur les filles en milieu rural, et tout s'est déclenché, enfin, ça s'est accéléré au moment où les femmes professionnelles de la Caisse des allocations familiales du Finistère m'ont appelé en me disant, mais quand on en a parlé il y a 6 mois de ton enquête sur les filles rurales, t'étais sérieuse? Et je dis, ben ouais, mais enfin voilà, j'étais sérieuse, mais j'ai pas encore fini de définir les territoires. Et elles m'ont dit, et si nous, si nous on t'aide sur le terrain, tu es d'accord pour venir et enfin voilà, enquêter chez nous, parce que nous, on n'est pas un territoire rural et pourtant on a tous les codes de la ruralité et on a un taux de prime à l'emploi extrêmement élevé. Et on a un taux de famille de milieu populaire et on ne comprend pas ce qui se passe pour les filles. Et du coup, quand on en a parlé, on s'est posé des questions. Et donc ça s'est aussi déclenché comme ça. Et donc j'ai commencé par enquêter en pointe de Finistère. Je n'avais pas du tout prévu d'aller là-bas. Parce que le terrain aussi est venu jusqu'à moi en me disant, mais là, nous, on a une question qu'on se pose. Et au regard des critères qu'il y a autour de la ruralité, ça fait sens pour nous d'être dans ton projet. Donc en fait, elles m'ont aidé surtout sur l'organisation de départ, sur trouver des locaux pour faire des entretiens et puis pour faire des réunions avec les élus qui m'ont pour certains demandé quel était l'intérêt de travailler sur les filles. Donc voilà, et sur ta dernière question sur les villages et les bourgs, en fait, j'ai rencontré des filles qui habitent dans des villages, qui habitent dans des hameaux, qui habitent effectivement dans les maisons du bout, du bout, du bout. Et puis dans les fins, moins souvent peut-être dans les centres-bourgs et encore que, parce que dans les centres-bourgs, c'est aussi là où il y a les habitats sociaux. Donc du coup, elles habitent dans les centres-bourgs, mais pas dans les grosses maisons des notables du coin. Elles habitent à côté de l'antenne relais, dans le bourg, et donc du coup, elles vont avoir une autre lecture du bourg. Et en même temps, elles vont pointer de l'intérêt d'être dans le bourg parce que c'est aussi là où on peut s'acheter du pain sans avoir une voiture. C'est aussi là où on a un peu plus accès aux services publics. Donc voilà, moi je les ai rencontrés à la fois dans le bourg, dans leurs établissements. Hein. J'ai enquêté dans des MF, enfin je suis passée par des MFR, donc les maisons familiales rurales, je suis passée par les missions locales, je suis passée par les institutions, par l'institution scolaire aussi, pour faire savoir que l'enquête elle était en cours, pour pas que ça soit bizarre. J'ai voilà, le plus possible, ça discutait autour de moi sans que je sois là, et le plus possible, ça m'assurait de pouvoir après accoster et aborder des gens. Hein. Un peu, et des filles un peu n'importe où, parce qu'elles en allaient, elles allaient en avoir entendu parler. Et donc, ça m'est arrivé aussi de prendre des cars scolaires, et notamment comme ça, un papa, enfin, un conducteur de cars scolaires me dit « Ah, mais vous avez rencontré ma fille hier. » Et je ne saurais jamais si c'était un test pour savoir si j'allais dire que oui, j'avais vu sa fille, s'il voulait s'assurer que sa fille n'avait pas raconté n'importe quoi, qu'elle avait bien rencontré la sociologue ou pas. Et en même temps, il y avait tous les jeunes du car qui attendaient de voir ma réponse pour savoir si j'allais balancer des trucs sur l'entretien ou pas. Donc, j'ai dit, ah bah, sûrement peut-être, mais je ne sais pas comment, j'ai déjà changé de prénom. Donc, mais bon, là, je vais faire avec vous là, de la tournée de cars scolaires. Merci beaucoup. Donc, j'ai répondu sans répondre. Les jeunes ont rigolé et moi aussi. Et donc, voilà.
Merci pour ta réponse. Y a peut-être la partie sur les différents styles de féminité, plus ou moins légitimes localement selon les lieux, qu'elle t'a pas eu. T'as pas eu trop le temps de répondre, mais juste peut-être, enfin, je sais pas, pour résumer ce que tu, enfin, je trouve que ce qu'on voit là-dedans dans le livre, et c'est que, enfin, indépendamment en fait des territoires où on se situe et de l'effet quand même fort des possibles professionnels qui déterminent beaucoup quel genre aussi de femmes dans le couple on va pouvoir former aussi. Il y a le fait que, indépendamment là où on est, la place qu'on a dans l'interconnaît, si on peut se permettre de se comporter de telle ou telle manière, de parler d'un tel ou d'un tel, et d'envisager aussi d'occuper l'espace, d'être visible en tant que femme. Et enfin, je te dis ça parce que j'essaie de faire une transition avec ma prochaine question, qui est sur l'autonomie féminine et la relation aux hommes. En fait, en lisant le bouquin, en reprenant les différents cas, on se rend compte que les jeunes femmes qui arrivent à avoir une place fréquentent toujours les hommes. Que celles qui disent qu'elles osent parler, qu'elles osent occuper l'espace public, voilà, sont souvent la fille d'eux. Donc déjà, moi, je trouve que par rapport aux jeunes hommes sur lesquels j'ai travaillé, il y a une grande dépendance de ces jeunes femmes-là pour leur place dans la sociabilité à leur père, en fait, et à la manière dont elles héritent d'une position masculine. Alors même que pour les jeunes garçons, moi, j'avais plutôt tendance à voir qu'il y avait un fort effet de la bande de copains, donc quelque chose qu'on allait construire tout au long de sa vie, via sa réputation, via des affinités d'habitus, via des choses qui peuvent se travailler, alors que pour elles, il y a peut-être une plus forte inertie des positions qui est due largement à la place qu'on leur accorde en fonction de qui est le papa, et est-ce qu'il pèse ou pas. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais du coup, ça me posait la question un peu inverse, finalement, quelle forme d'autonomie féminine permet une reconnaissance sociale. Est-ce que tu as vu des cas où justement le statut social, la bonne réputation se fondait entre femmes, pas simplement en étant soit la Sam qui ramène de boîte de nuit et qui est bien considérée dans sa bande de copains, soit la fille du président du club de foot qui s'occupe de servir les cafés et qui après va être embauchée parce que c'est une bonne gamine qu'on connaît bien, soit la fille de la dame qui a le café aussi. Enfin, là, ça peut être une position de femme, mais enfin, c'est un peu un couple un peu bizarre où c'est l'homme qui travaille dehors et qui a le café. Mais bon, du coup, voilà, est-ce que tu as vu en fait des situations où il y avait un renversement de cette norme, quand même de cette tendance dominante que l'intégration sociale passe beaucoup par la fréquentation des hommes? Et peut-être davantage du coup que de dire que les normes se construisent selon le modèle masculin, on a plutôt l'impression que c'est directement les hommes qui vont aussi construire les normes féminines. Enfin, la reconnaissance féminine en tout cas passe beaucoup par les hommes. Donc voilà, j'ai cette question là sur est-ce qu'il y a finalement des espaces d'autonomie au travers de tout ça dans la production normative et comment ça se passe. Et puis après, une question, une petite série, puisque je vois que ça avance l'heure, du coup, je vais un peu regrouper mes questions pour qu'on gagne un peu de temps, ça ne te dérange pas. Ma batterie de questions sur le couple, alors j'en sélectionne seulement quelques-unes pour ne pas trop déborder. C'est que, en fait, de, Bon, tu parles en fait de choses qui, moi, font beaucoup écho à ce que j'avais vu sur la manière dont les jeunes femmes sont amenées à couper les ponts avec leur sociabilité d'origine quand elles se mettent en couple, et que le moment de la mise en couple, on voit qu'on n'est plus dans les amitiés choisies, alors qu'avant on était davantage dans des amitiés choisies qui pouvaient se faire sur affinité féminine notamment. Et donc, on voit qu'elles subissent là dès lors en fait une forme de relégation, parce qu'elles vont être moins. La valorisation par la réputation, par les pairs est très importante, et elles ne vont pas pouvoir en profiter parce qu'elles ne sont pas comme ça dans un maintien, dans un entretien du capital social comme le sont les hommes. Et il y a d'autres peut-être paramètres en fait qui permettent aussi d'expliquer, on va dire, quand même l'inégale domination masculine telle qu'elle est subie par les jeunes femmes dans leur couple, il me semble. Et du coup, j'aurais voulu t'entendre un petit peu sur les effets de, vu que c'est des jeunes femmes un peu plus jeunes que celles que moi j'ai pu rencontrer, est-ce que l'écart d'âge dans les couples est très significatif, en fait, va avoir un impact important sur leur trajectoire à court ou moyen terme? Est-ce qu'aussi les styles de conjugalité, les styles conjugaux, notamment le fait d'accorder plus ou moins de liberté à son homme, comme elle dit, comment le fait de laisser sortir, d'accepter qu'il aille seul en boîte de nuit, d'accepter aussi qu'il soit le seul à travailler dans le couple, par exemple. Est-ce que ça, en fait, t'as retrouvé des espèces de débats, notamment dans les entretiens collectifs? Je trouvais ça avait l'air intéressant de ce point de vue-là, en fonction de qui on fréquente. Et moi, ce que je voyais, c'était que les styles conjugaux étaient très différents selon les bandes de potes. C'est-à-dire qu'il y avait une affinité qui se faisait entre les couples qui avaient un peu les mêmes relations, les mêmes genres de relations. Les couples très inégalitaires avaient tendance à se fréquenter parce que c'était les hommes qui dominaient beaucoup les sociabilités, qui avaient beaucoup de marge de manœuvre, qui choisissaient ce qu'on faisait, et leurs copines avaient juste tendance à venir les voir après la chasse ou après le foot. Enfin voilà, n'avaient pas trop de marge de manœuvre. Et puis il y avait d'autres bandes de potes où, par exemple, les jeunes femmes travaillaient toutes à l'hôpital, elles étaient aides-soignantes, il y avait un collectif de travail féminin qui leur permettait d'avoir des relations en dehors de la bande d'amis. C'est elles qui décidaient d'aller au resto ensemble, etc. Et les hommes avaient plus tendance à suivre, et c'était eux qui se retrouvaient un peu individuels comme ça, éparpillés. Du coup, on voyait ce renversement-là qui était possible par ce que tu pointes aussi, je trouve, comme l'élément fondamental, par finalement qu'est-ce que le marché du travail propose. Et tu le dis bien dans le livre, hein, tu listes en fait tous les types de métiers, les copains des filles que tu rencontres, c'est que des métiers de manuels, hein, plus ou moins dangereux, dont on sait qu'il y a évidemment une dizaine d'années de moins à vivre qu'un cadre quand on exerce ces métiers-là. Enfin voilà, c'est pas pour dire qu'ils sont privilégiés, mais néanmoins, relativement en fait dans l'espace local, ils vont gagner beaucoup plus déjà que les femmes. Alors même qu'on est dans les classes populaires, eux, ils vont être en fait dans les métiers les plus valorisés au niveau salarial, et ils vont surtout être plus valorisés dans leur métier, alors que les jeunes femmes, elles, tu dis, elles prétendent à pas grand-chose. S'il n'y a pas d'usine qui emploie des femmes, c'est l'aide à la personne, c'est les secteurs les plus précarisés, ou c'est l'auto-entrepreneuriat de soi dans des secteurs très peu rémunérateurs, toujours en plus sujet à embrouille, parce que c'est des histoires enfin, sur le principe des réunions du perroir, où on dépend toujours pour son salaire d'une copine qui vous aide. Enfin voilà, je pense pas que ça aide aussi au maintien des amitiés longues. Le fait qu'une relation comme ça d'argent au milieu en fait de toutes les relations sociales, c'est quand même assez compliqué. Enfin voilà. Et moi j'ai d'autres questions, mais ça va vraiment être trop long. Peut-être que tu peux déjà répondre à ça, puis on voit après si on finit. Et si du coup j'ai pas le temps de te la poser, ma question sur la Dame de Paris, c'est celle en fait de je trouve que t'en as un petit peu parlé tout à l'heure quand t'as expliqué comment c'était fait ton terrain, comment tu as été contacté par des actrices du coup locales, des personnes qui sont engagées en fait auprès des jeunes femmes sur lesquelles tu m'as travaillé. Et il y a quelque chose que t'as pas dit, mais qui est peut-être pas très présent d'ailleurs dans le bouquin, mais tu fais énormément de restitutions en fait auprès de tes enquêtés, c'est-à-dire que tu donnes tout de suite le change, et même la restitution fait partie de ton enquête. Parce que en fait, tu vas nourrir ton taux de la façon dont les gens vont revenir sur ta propre enquête. Et du coup, je voulais que tu reviennes un petit peu sur ce que ça t'avait apporté là dans ce cas-là de faire les restitutions, et de la manière aussi dont la place, est-ce que tu as pu un peu objectiver la place qu'on t'avait accordée dans les différents endroits. Enfin, il me semble que c'est pas la même partout. Je trouve que, par exemple, la plupart des observations, notamment celles qui sont convoquées dans la fin du bouquin, que je trouve vraiment super éclairantes sur tout le reste des entretiens, elles viennent plutôt du terrain breton. que des autres terrains. Ça ne veut pas dire que les autres terrains sont moins riches, mais enfin, du coup, comment ça se fait? On devine qu'on ne t'a pas accordé la même place. Et est-ce que tu peux revenir là-dessus? Et à mon avis, ça, ton enquête, elle éclaire quelque chose quand même. C'est que bon, tu dis que tu ne viens pas de milieu rural, etc. Mais néanmoins, bon, déjà, tu es une femme qui enquête sur des femmes. Donc, il y a quelque chose qui joue évidemment de ce côté-là. Moi, ce que j'avais tendance à écrire dans mes travaux, c'était que l'âge local, d'alignage comme ça, qui nous inscrirait d'emblée dans la société locale. En fait, c'est un écran de fumée par rapport à l'affinité d'habitus et aux proximités sociales. Et par exemple, un gars qui arrivait, qui débarquait dans un village parce qu'il se mettait en couple ou pour X raisons, parce qu'il venait bosser à l'usine, il pouvait avoir une place beaucoup plus importante dans les sociabilités 3-4 ans après que quelqu'un qui avait toujours grandi là, mais qui n'était pas le modèle du type du coin, qui était engagé dans le club de foot, qui était voilà, sympa, rigolo, enfin, bon, avec aussi un indice corporel conforme au modèle ouvrier local. Et donc finalement, il était beaucoup plus du coin en quelques années que celui qui était le petit-fils de l'ancien maire, mais qui appartenait plutôt aux classes moyennes supérieures, qu'allait au collège privé, qu'on ne connaissait pas, quoi. Et donc, je me demandais si avec toi aussi, il n'y avait pas eu ce effet-là, c'est-à-dire la manière dont spontanément on arrive en fait à être du coin parce qu'on s'intéresse aux mêmes choses, parce qu'on a parce qu'on s'est relancé sur des expériences de vie commune. Enfin, comment on t'a demandé un petit peu de mettre du tien, tu vois, pour finalement montrer patte blanche, c'était aussi montrer que tu pouvais comprendre ce qu'elle te disait et qu'elle parlait pas dans le vent, quoi. Et quand on lit ton bouquin, on sent complètement qu'elle parle pas dans le vent, qu'elle savent que l'interlocutrice en face d'elle, c'est pas une nana de Paris qui s'intéresse au folklore, quoi. Et je pense que ça fait vraiment la qualité de ton enquête. Donc peut-être une manière que tu y répondes, c'est pas évident de répondre comme ça, mais c'est sur les restitutions, quoi. Voilà, qu'est-ce qui a émergé, qu'est-ce qu'on a dit de toi dans les restitutions, ça m'intéresse pas par curiosité, mais vraiment pour voir en fait qu'est-ce que ça dit aussi des personnes que tu as rencontrées en fonction de la place qu'on t'a donnée, ça révèle un petit peu la structure sociale que tu as en face de toi. Et puis le reste des questions, je pense que je te les enverrai par mail, parce que sinon on va vraiment s'appesantir. Ça portait plus sur les cas précis, du coup c'est un peu moins intéressant pour les personnes peut-être qui n'ont pas vu le bouquin. Voilà. Merci.
Ben merci à toi. Alors, sur les différents styles de féminité entre le genre et la manière dont on peut parler ou se comporter ou aller ou fréquenter, enfin, qui peut s'autoriser à, et voilà, et les relations aux hommes qu'on peut avoir. Alors, il y a plusieurs. Enfin, il y a plusieurs entretiens, enfin, d'un coup, qui émergent quand tu parlais de ça. Et en fait, ça me rappelait, oui, alors effectivement, il y a une forte diversité, en tout cas, des styles de féminité et de vivre sa féminité, de raconter sa féminité, qui va aussi se placer sur le fait qu'elles ne se rapportent pas toutes sur leur relation aux hommes, mais sur leur relation à leur père, PAIRS, et aux groupes auxquels elles sont rattachées et desquels elles se distinguent. Alors, ça va être même presque plus souvent desquels elles se distinguent davantage que celles auxquelles elles sont rattachées, c'est-à-dire qu'elles vont largement produire un discours sur les gens avec qui elles traînent pas, pour expliquer qui elles sont et la place qu'elles ont, et la place qu'elles ont, et comment elles peuvent aussi bénéficier de certaines libertés parce qu'elles ne font pas partie de ce groupe-là. Ou au contraire, elles ne peuvent pas aller dans tel endroit parce qu'elles ne font pas partie de ce groupe-là. Donc voilà, il va y avoir l'exemple également des filles qui ont décidé qu'elles n'en avaient plus rien à foutre du regard des autres, parce que, et c'est comme ça qu'elles le disent, hein, rien à foutre, parce que finalement, elles ne s'inscrivent pas dans une perspective d'entrée dans la conjugalité à court terme, et encore moins dans la conjugalité hétérosexuelle. Et donc, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elles ne se soucient pas et qu'il n'y ait pas des enjeux de réputation et des enjeux de respectabilité, mais en tout cas, ils ne vont pas se placer de leur point de vue sur le marché matrimonial, puisque pour l'instant, elles sont dans des histoires de relationnelles et ou amoureuses, avec des filles, par exemple. Et donc, enfin, ça va déplacer aussi les rapports de pouvoir entre les jeunes et le regard des
Là-dessus,
adultes.
je me permets de te relancer parce que c'est une question que je voulais te poser. C'était pour faire un écart à la norme comme celui-ci, est-ce que ça suppose certaines ressources en fait? Parce que moi, j'avais, enfin, les femmes qui ont passé la trentaine là dans mes enquêtées, qui restent célibataires, elles ont des emplois publics, elles ont des diplômes. Enfin, tu vois, c'est plutôt des femmes qui peuvent se revendiquer de ne pas avoir besoin d'un mec, qui ont une autonomie financière, qui ont acheté elles-mêmes leur maison. et qui peuvent même en fait revendiquer d'avoir des histoires, de cumuler les partenaires et sans avoir une mauvaise réputation en fait, parce qu'elles sont travailleuses, parce qu'elles sont comme intelligentes. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a ça ou c'est pas...
Oui, bah alors c'est ça qu'on va retrouver dans la reconnaissance sociale des filles qui occupent, enfin qui ont une bonne réputation. Ça va être notamment, et c'est on va me parler de l'animatrice qui est là depuis 15 ans, 10 ans en vrai, mais bon, elle est là depuis toujours, et elle est géniale, mais tu verrais, elle a tout fait dans sa vie, elle a même quitté son mec, et alors, tu te rends compte, elle s'occupe de tout le monde, et elle nous a vu grandir, elle a 35 ans l'animatrice, hein. Mais elle tient le village, et elle tient tout le monde, et elle tient les jeunes, mais parce qu'elle-même, elle est une jeune du coin, et en fait, elle leur a montré de par son parcours qu'on pouvait survivre à une rupture, et qu'on ne pouvait pas tout supporter d'une relation, par exemple, notamment parce que ça s'est très mal passé avec son conjoint précédent et que ça s'est su, et qu'elle n'a pas fait non plus l'omerta sur le fait qu'elle se faisait taper dessus et que du coup, elle a mis un terme à la relation. En tout cas, la relation s'est arrêtée. Et les jeunes m'ont dit, elle a plaqué son mec. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, je n'étais pas là et je n'ai pas enquêté cette femme-là, donc je ne saurais pas comment ça s'est passé, mais l'histoire des filles veut que cette professionnelle, elle ait quitté son mec. Et donc, la preuve, tu vois, c'est vraiment une femme... Elle devient un contre-modèle. Et ce qui est intéressant, c'est ces professionnels-là, et notamment sur lesquels je me suis pas mal appuyée à certains moments pour rencontrer des filles, faire des premiers entretiens collectifs, ou en tout cas des discussions collectives, notamment le soir, en faisant des goûters brioche chocolat Nutella, voilà. Ça a été aussi par elles que c'est passé, et avec l'idée de dire, on peut faire aussi des soirées filles. Et là, d'un coup, il n'y a plus personne qui cherche l'embrouille, parce qu'on ne sera que entre filles. Donc, les copains laissent, les parents laissent, tout le monde accompagne tout le monde vient rechercher à n'importe quelle heure, parce qu'on ne sera que entre filles, et que c'est porté par l'animatrice qui tient le centre du coin. Donc, voilà. Et elle va montrer qu'il y a des femmes qui peuvent tenir la baraque, mais ça va être lié aux emplois publics. La difficulté, c'est que moi, j'ai enquêté sur des filles qui ne sont pas encore dans ces emplois-là, puisqu'elles ont entre 14 et 25 ans. Elles aspirent toutes, et moi je trouve que c'est ça qui est intéressant dans cette enquête, par rapport à leur mère et à leur grand-mère. Donc leurs mères n'ont pas grandi avec ce schéma, cette représentation-là et ce schéma de couple biactif. Elles ont réussi à transmettre à leurs filles, alors qu'elles-mêmes elles sont dans des situations d'emploi très très compliquées, voire d'absence d'emploi, elles ont transmis à leurs filles l'importance d'être dans des couples biactifs. Et donc moi, je n'ai pas rencontré de filles qui me disent « moi j'attends de faire un bon mariage, comme ça je ne travaillerai pas ». Non, elles envisagent toutes de travailler, les moyens d'accéder à l'emploi sont très compliqués, donc certaines vont construire un truc en disant « tant qu'il y en a un ou deux qui travaillera, ça ira » et tout ça, mais pour autant, l'importance c'est de travailler et qu'elles, elles travaillent pour accéder à une indépendance économique. Donc voilà, sur la question de la féminité et de l'autonomie féminine, il y a aussi tous les premières sorties et le fait d'avoir montré à la fois qu'on peut tenir l'alcool, les femmes qui tiennent l'alcool et qui ne font pas n'importe quoi après une soirée où tout le monde était bourré, ça va forcément aller dans leur sens et dans leur capacité à pouvoir continuer de sortir et à gérer leur pratique, leur réputation et ou les violences sur lesquelles qui pourraient leur arriver. Donc voilà, et puis il va y avoir les femmes dont on a pu parler, mais finalement qui tiennent le truc. Alors ça va être notamment la grande sœur d'une des filles que j'ai enquêtée, qui a repris le PMU, qui a eu une réputation comme une fille qui tient un PMU, c'est-à-dire que soit elle couche avec tous les clients, que c'est comme ça qu'ils reviennent, et voilà. Puis en fait, elle a continué de tenir le PMU, donc même si potentiellement elle avait couché avec tous les mecs du village, voilà, c'est fait, et elle tient encore le PMU. Et en fait, le PMU continue de tenir. Et donc, il y a là, au bout d'un moment, en fait, on voit que ça s'est éteint, en fait, cette histoire. Bon, après, il a fallu qu'elle tienne le coup, la grande sœur. Elle a 35 ans, je l'ai croisée deux fois, et moi, j'aurais bien voulu faire un entretien biographique avec elle pendant 5 heures pour qu'elle raconte cette période-là de l'histoire, parce que ça avait l'air d'être l'horreur. Mais voilà, il y a toutes ces femmes, en fait, qui sont aussi dans l'ombre des filles que moi, je peux rencontrer. Et qui sont là. Il y a enfin, dans les enjeux de bonne réputation et de celle qui réussit à faire sa vie, celle à faire bouffer ses mômes, en fait, et qui est la preuve que c'est une femme qui réussit à faire sa vie et à faire tenir sa vie. C'est-à-dire que les mômes ne manquent de rien avec le truc de « je ne suis pas une cassosse et ce n'est pas une cassosse ». Donc voilà. Et alors, derrière la construction des cas sociaux, puis là, on n'aura pas forcément le temps d'en discuter, mais la grosse différence qu'il y a, que moi, je trouve, avec le milieu urbain, dans leurs propos, et sur tout le repérage extérieur des maisons, ou des habitats qui sont liés et qui vont participer à la construction des cas sociaux. Et notamment, quand j'ai fait des tours en voiture pour qu'elle me fasse visiter un peu le coin, c'était bah, regarde chez eux la peinture, regarde chez eux les rideaux, regarde chez eux la bagnole abandonnée et la pelouse elle est pas machin, et regarde le portail, et regarde gna gna gna, et regarde même dans les cités, regarde comme c'est chez eux, tout ça. Parce qu'on n'a pas d'équivalent en milieu urbain, parce que bah, quand on habite dans une cité d'habitat social en milieu urbain, les apparts sont tous faits pareil, une fois que les portes sont fermées, on ne sait pas ce qui se passe dedans, en fait. On sait dans quel quartier on habite, on sait l'état du quartier, mais pour autant, l'état des intérieurs se voit moins et est moins le lieu de commentaires individuels. Donc voilà. On va voir aussi comment Le Bon Coin va participer aussi à la connaissance des intérieurs des unes ou des autres, parce qu'en milieu urbain, on sait ce qui se vend dans notre arrondissement, mais ça ne suffit pas, en fait, à savoir qui vend quoi, alors que sur un village, on sait très vite qui vend quoi. Et donc, il va y avoir des histoires autour du Bon Coin. Alors, Dominique Pasquier, elle commençait déjà à travailler là-dessus dans son dernier bouquin là, sur Internet des familles modestes. Mais moi, dans les récits des filles, voilà, tout ce qui se passe sur Le Bon Coin, ça sert aussi, pas à acheter, mais à regarder comment c'est chez les uns et chez les autres. Et ça serait bien qui vend quoi et comment c'est. Et regarde lui, il se dit qu'il est pauvre, il a 3 écrans.
Pour l'anecdote, j'avais été contacté par des dirigeants du Bon Coin qui s'intéressaient à la sociologie rurale parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'en fait, ils étaient très, très surutilisés dans les milieux ruraux. Et dans certains types de milieux ruraux, en fait. Enfin, ça renvoie à ce que tu dis, mais à l'échelle big data, c'est tout à fait vrai.
Ouais, ben, mais voilà. Après, sur ta question de l'effet de l'écart d'âge des couples, l'effet de l'écart d'âge des couples, il est hyper important à l'adolescence. Donc, on est toujours dans les garçons sont plus âgés que les filles, mais il est hyper important à l'adolescence parce que les garçons ont les permis de conduire plutôt que les filles de manière générale en milieu rural. Et quand ils ont les permis, ils ont aussi plus rapidement voir la voiture avant même d'avoir le permis. Et donc, ils bénéficient de certaines formes de mobilité et d'indépendance dans la mobilité par rapport aux parents que les filles n'ont pas, parce qu'elles sont des filles, parce qu'il y a un rapport à la route et on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais d'être en couple avec des garçons plus âgés ou qu'il y en ait une qui soit en couple avec un des mecs plus âgés, c'est lui qui va faire finalement le chauffeur pour le groupe de filles. Et donc, il va être aussi très attendu, mais qui va être la pièce maîtresse de toutes les relations de lui dans son groupe, et c'est lui qui va ramener les filles dans son groupe de copains. Il va pas faire le groupe de A, de B, de C pour ramener chacune des filles, hein, clairement. Mais du coup, il a une voiture avec éventuellement 3 filles dans sa voiture, 3 copines, et il va être un peu ben voilà, l'homme providentiel. Donc voilà, sur l'écart d'âge dans les couples, il y a aussi le fait que du coup les garçons soient plus avancés et impliqués dans l'insertion professionnelle, et donc soient plus tôt éventuellement indépendants économiquement, ou en tout cas avec un certain voilà, avec certaines rentrées d'argent qui leur permettent aussi de pouvoir inviter, de pouvoir payer certaines choses, alors que les filles ne le sont pas forcément parce qu'elles finissent une formation ou parce qu'elles ne sont pas encore entrées dans l'emploi, par exemple. Et enfin, sur l'écart d'âge, malgré tout, je dirais qu'il n'y a pas la même pression sur l'entrée dans la parentalité. Hein. Les garçons à 25-27 ans, on ne leur met pas encore complètement la pression. On leur rappelle que ça serait bien qu'ils y pensent, mais pas avec autant d'insistance. C'est-à-dire que moi, les filles que j'ai pu rencontrer, ce que les filles surdiplômées ou diplômées ont autour de la trentaine, c'est-à-dire que ça serait quand même bien que tu y penses parce que tu comprends l'horloge biologique, ça se joue bien plus tôt pour les filles de milieu populaire et notamment qui habitent dans les territoires ruraux où il y a... Ben, tout le monde qui sait tout, ou tout le monde est invité au baptême, tout le monde est invité au mariage, tout le monde sait pour la naissance, et donc ben, chaque naissance vient rappeler que tu n'es pas encore rentrée, et où chaque naissance vient te conforter dans le fait que tu fais partie des femmes qui, elles aussi, sont entrées dans la parentalité, dans la maternité plus spécifiquement. Donc voilà, et il n'y a pas d'équivalent pour les garçons, ce qui leur permet aussi de pouvoir faire... avoir d'autres histoires en parallèle, et où faire attendre, et où imposer accélérer cette entrée dans la parentalité parfois, parce que bon, quand même, ils ont déjà 27 ans, ok, t'en as 23, mais bon, tu comprends, moi, ça y est, il faudrait que voilà, je suis posée, t'es posée, on est ensemble, on est bien, on y va. Voilà, et donc, comme tu le disais clairement, hein, le marché du travail, ça va largement impacter l'ensemble des parcours, le marché du travail en tant que tel, mais parce que c'est la clé de l'indépendance économique, et en même temps, le marché du travail en tant que tel, parce que comme les filles accèdent difficilement au CDI dans les espaces qu'on a pu enquêter, toi comme moi, elles sont vont embaucher, elles vont travailler, mais pour autant, ce n'est pas ça qui va leur donner les moyens d'accéder à un prêt pour avoir un appart, pour avoir une maison, pour avoir même pour acheter une machine à laver, en fait. Puisque pour avoir une machine à laver, il faut avoir un prêt. Non, mais je prends un exemple tout bête de la machine à laver, mais parce que c'est revenu dans plusieurs entretiens, et que c'est quand même la clé de du départ de chez les parents. C'est-à-dire, tu ne reviens pas quand tu es une fille. Quand tu es un garçon, tu as le droit de revenir chez ta mère laver ton linge, mais quand tu es une fille, tu laves ton linge toute seule quand tu pars. Donc voilà. Et enfin, sur les dames de Paris et la restitution, alors effectivement, ouais, le protocole d'enquête, il mettait en jeu la restitution dans le cœur même de l'enquête. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir écrit le rapport de recherche qui est en ligne et qui était en ligne bien avant l'ouvrage, il y a eu des formes de restitution, avec l'idée de faire discuter les filles sur les premiers résultats, de faire discuter les filles du terrain A avec les récits des filles du terrain B, et ainsi de suite du terrain C, et de voir ce sur quoi elles se reconnaissaient, ce sur quoi elles se retrouvaient, les paroles qui faisaient sens pour elles, là où il y avait discussion entre nous, là où on n'était pas forcément complètement d'accord sur mes analyses, là où ça pouvait, et qu'est-ce qui faisait que moi, je pouvais affirmer ça d'un point de vue sociologique, alors que elle, de son cas individuel à elle, c'est pas ça qu'elle avait vécu. Ah oui, alors je ne fais pas une sociologie de toi, que toi, et donc tu es que toi, mais au milieu des autres. Voilà, dans ces restitutions, ça a pris plein de formes différentes, et puis après je vais arrêter, mais ça a pu prendre des formes de pièces de théâtre, de soirées-concerts, de soirées-débats en plein milieu des trucs gilets jaunes, des manifestations gilets jaunes, où l'enquête elle s'est arrêtée au tout début des gilets jaunes, parce qu'en même temps, il fallait bien que ça s'arrête au bout d'un moment, alors ça a été ma frustration, est-ce qu'il fallait arrêter ou pas. Bon, moi j'ai arrêté, il y en aurait d'autres qui auraient continué, il y a des moments où il faut arrêter. Et en fait l'enquête elle s'est restituée aussi à la fin, et puis après, je suis revenue présenter le bouquin, mais initialement, ce n'était pas censé être un bouquin. Donc, l'idée, c'était surtout que les filles n'apprennent pas ou ne lisent pas ou ne tombent pas sur des résultats sans avoir eu l'opportunité qu'on puisse en discuter. Alors, il y en a qui sont venues, d'autres non. Il y a des filles qui n'ont pas participé à l'enquête, qui sont venues aux résultats. Quand c'est devenu une pièce de théâtre, quand c'est devenu des représentations plutôt publiques, il y a d'autres filles, et il y a surtout les parents et d'autres personnes qui sont venues et qui ont été interpellées, mais de générations plus âgées. Ce qui a été hyper intéressant aussi de voir combien ils et elles étaient confrontés au récit des filles. Donc voilà, avec toute la difficulté d'encaisser le fait qu'il y a des choses qui ne bougent pas, et en même temps, de qui est la responsabilité si ça va. Et donc d'adultes qui disent, et de grands-parents qui disent, mais en fait, du coup, c'est de notre faute s'il y a des rapports de genre inégalitaires encore. Donc voilà. Et enfin, sur la manière de réussir à faire du terrain quand on vient de Paris en milieu rural, je pense qu'il faut d'abord assumer le fait qu'on vient de Paris et dire d'où on parle. Moi, je n'ai jamais dit « je viens de milieu rural ». Quand on m'a posé la question « mais toi, tu viens d'ici ?» Non. Alors, pourquoi il y a la Bretagne plutôt qu'ailleurs ? Parce que j'ai plus investigué aussi en Bretagne. Parce que moi, j'ai de la famille qui vient de Bretagne. Donc, c'était aussi plus simple pour moi dans les allers-retours. Parce qu'une enquête de terrain, quand on habite à Paris et qu'on a une vie professionnelle et familiale à Paris, il faut partir de chez soi tout le temps. Et que c'est sympa, mais qu'au bout d'un moment, ça crispe aussi. Donc, si on peut faire garder son enfant pas trop loin, ça peut être pratique aussi à certains moments. Mais il y avait aussi l'idée d'assumer le fait d'être une fille de Paris, de leur répondre à leurs questions sur Paris. Alors, ça pouvait être des questions très, très différentes les unes des autres. Et alors, il n'y a que des bourgeoises, et c'est comment les riches, mais ça pouvait être aussi... Et alors, du coup, tu as déjà vu un terroriste, et tu t'es déjà fait agresser, ou encore... Mais alors, du coup, toi, tu vas au restaurant tous les jours. Donc, de répondre, de montrer des photos, de raconter ma vie quotidienne parisienne. Ça a été aussi de dire que malgré tout, comme toute ma famille vient de milieu rural, de dire qu'est-ce que font mes cousines, qui fait quoi dans ma famille quand les questions m'étaient posées, sans essayer de me défausser ou de faire croire que j'avais une autre vie qui n'avait rien à voir avec la mienne, sans faire croire non plus que toutes mes cousines étaient paysannes et ramassaient du blé à la main dans les champs pieds nus, quoi. Donc, elles sont infirmières, elles sont aides-soignantes, comme une grande partie des filles que j'ai pu rencontrer. Et puis surtout, en fait, je pense que je les ai enquêtées comme les autres jeunes que j'ai déjà enquêtées, c'est-à-dire comme des jeunes qui vivent en France en 2021, enfin en 2018-2019 à l'époque, et donc pas en tant que fille rurale, spécifique, je ne sais pas, qui aurait des pratiques spécifiques. Et donc, quand elles me disaient « je ne fais rien, je suis sur Internet », je leur disais « ouais, enfin ça, c'est comme tous les jeunes que je rencontre, donc en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu es sur Internet ?» Parce que si je te cite l'autre qui va sur tel YouTuber, je suis sûre que « ah non, lui, je n'aime pas !» Je dis « bah, tu vois !» Donc, tu ne fais pas la même chose que l'autre que j'ai rencontré sur une autre enquête. Donc, j'utilisais les autres enquêtes que j'ai pu faire avant pour leur permettre de se positionner par rapport à d'autres jeunes et à d'autres pratiques juvéniles. Et donc, c'est aussi en ça que ça permettait de les réinscrire dans une génération plutôt que dans un territoire, dans une classe sociale plutôt que dans un territoire. Et donc, c'est plus comme ça que je les ai enquêtées, comme étant des filles porte-parole de leur génération, comme des filles racontant leur parcours et comme, ben voilà, elles habitent à tel endroit, donc on va parler aussi de l'endroit où tu habites. Voilà un peu très rapidement l'histoire.
Merci beaucoup pour tes réponses. Moi, j'ai eu plus que ce que j'attendais. Juste la dernière chose dont tu parles sur la manière dont je trouve que c'est assez commun aux enquêtes rurales où finalement les enquêtés, eux, ils ont envie qu'on les voit pour ce qu'ils sont, pas en les ramenant en fait à des spécificités, des curiosités locales. Et l'attention, je trouve qu'on a dans la diffusion après de nos enquêtes derrière, c'est que dans le sens commun et notamment dans l'espace médiatique, on nous demande de les refolkloriser, en fait, de les redécrire, non pas par leurs conditions matérielles d'existence, non pas dans les rapports de domination dans lesquels ils sont pris, mais par le fait d'être de tel ou tel coin. Et donc, il y a tout l'enjeu aussi de tenir, comme tu l'as fait, l'anonymat. Ta réponse était vachement claire là-dessus pour justement arriver à aller au-delà de l'idée que les gens de ce village-là sont complètement différents des autres et c'est la ruralité qui est complètement coupée du monde. Et là-dessus, le bouquin marche vraiment bien. Mais merci en tout cas pour tes réponses.
Merci à toi.